France Inter.
Bienvenue à tous, chères auditrices et chers auditeurs, pour cette nouvelle édition de Qui veut gagner la flûte à bec. Alors, une émission dans laquelle souvent, quand les invités arrivent, avant, ils me disent, mais moi, j'y connais rien en musique, qu'est-ce que je fais là? Enfin, franchement, j'ai pas à avoir la réponse, mais personne n'y connaît rien. C'est impossible de trouver la plupart des réponses aux questions qui sont posées dans Qui veut gagner la flûte à bec, parce que bien souvent, c'est de vous écouter spéculer, chers candidats, qui va être intéressant et de voir comment vous allez vous retrouver, être guidé vers la bonne réponse. Et mes candidats, ils sont quatre aujourd'hui.
Ah là là.
Et ils sont venus avec leur lot, leur musette remplie de réponses. On va voir si elles correspondent aux questions que j'ai prévu de leur poser. En tout cas, je me tourne tout de suite vers la première de mes quatre invités. Elle est originaire de Ploufragan.
Oui, on dit Plouf.
Et voilà, ça tombe bien parce que je trouve personnellement il n'y a pas assez de villes qui commencent par Plouf. Et le nom de son podcast s'appelle Vulgaire et il a vraiment beaucoup, beaucoup de succès au point qu'il a été décliné en livre, en spectacle, en livre pour enfants et qui sait peut-être bientôt en BD, en comédie musicale.
Oui, livre de recettes.
C'est Marine Baousson.
Yeah. Merci, bonjour.
Bonjour.
Merci Marine d'être venue si loin en plus.
Oui, c'est vrai, ça faut prendre le train, mais ça va.
Exprès pour venir gagner une flûte.
Ouais, exactement.
Que vous n'avez qu'une chance sur quatre de gagner.
Oui, mais quand même, j'ai un peu des connaissances et tout.
Ok. Parce que je rappelle que si vous perdez, vous pouvez quand même faire une demande auprès de la SNCF pour vous faire rembourser le billet.
Ah,
ça, c'est un partenariat que j'ai demandé avec la SNCF pour cette émission. Ma deuxième invitée, elle est juste à côté de vous, Marine. Son spectacle s'appelle L'hymne à la joie parce que c'est une énorme fan de Beethoven.
Ah voilà, le chien, hein.
J'en suis pas si sûr, Beethoven le chien, bien sûr. J'ai vu que sa tournée à la rentrée est complète absolument partout.
Oui, alors elle est complète, c'était l'ancienne tournée qui a été complète, mais ça fait toujours plaisir quand même.
Ah, parce que c'est toujours vraiment le visuel qui apparaît en premier sur Instagram. C'est
oui,
la tournée complète d'il y a 3 ans.
Oui, c'est comme quand tu penses à ton ex, toi.
Ok. Et j'ai appris qu'elle a un soutien-gorge fétiche qu'elle met spécialement lorsqu'elle fait ses chroniques dans l'émission Piquante.
Et oui.
C'est toujours le cas.
Et bah, qu'est-ce que j'ai mis aujourd'hui?
Elle a mis aujourd'hui pour gagner. C'est Thaïs Vauquier. Thaïs Vauquier qui est avec nous.
Bravo.
Merci Thaïs d'être venue.
Bah, c'est moi, mon plaisir. Vraiment.
Tout ça pour gagner une flûte que vous êtes, encore une fois, je le dis, même pas sûr de gagner. Mais vraiment, merci d'être avec nous. Et juste en face de vous, eh bien, il y a le compositeur attitré des musiques de films d'Arnaud Desplechin, 2 fois vainqueur du prix Lumière pour les musiques de 3 souvenirs de ma jeunesse et pour La belle saison de Catherine Corsini, nommé 5 fois au César. Et en plus, il a un nom qui fait un peu penser à Bretzel. C'est Grégoire Hetzel. Bonjour Grégoire.
Bonjour.
Merci d'être venu jouer à la flûte à bec aujourd'hui. Vous êtes le seul musicien de la bande, hein.
Ah oui. Mais je ne sais pas jouer de flûte.
Ah, mais alors par contre,
je peux improviser. Moi j'ai un talent.
Marine m'a dit qu'elle savait jouer un petit air de flûte.
Ah, tu veux que je...
Bah, un petit air de... Vous m'avez dit que vous ne saviez jouer qu'une seule chanson.
Je ne sais jouer qu'une seule chanson.
Mais que...
J'ai oublié la fin.
On a reconnu. Elle jouait de la flûte à bec assise. Il jouait du piano debout.
C'est la fanfare de Ploufragan, ça.
C'est exactement.
Je pense que là, c'est la chef de la fanfare de Ploufragan.
Ah oui, je suis de la fanfare en plus, vraiment. Donc,
ça marche bien. Et je me tourne devant mon dernier invité. Il a collaboré avec les plus grands, de Patrice Lecomte à Alain René, en passant par Costa Gavras ou Charline Van Den Ecker. Pour moi, c'est un collègue de travail. On parle souvent des derniers dossiers devant la machine à café, tous les deux. Celui dont la biographie sur Wikipédia depuis le début de l'existence de Wikipédia commence par « Il n'a aucun lien de parenté avec Annie Girardot », c'est Hippolyte Girardot.
Salut.
Merci
Salut.
Hippolyte d'être là.
Merci Thomas.
Bah, nous on se connaît.
Ouais, on se connaît très bien.
On
machine
est
à café et compagnie, je suis d'accord.
On
et puis un peu déménagement à la Adèle Vendrette, on va tout voir, on a des choses en commun.
On va vider le même bureau cet été, effectivement, pour le déplacer dans un bureau d'émission hebdomadaire, c'est-à-dire un plus petit bureau.
Bah oui,
alors le rappel des règles, je le fais, c'est très brièvement. Je vous fais écouter un petit extrait musical que je contextualise, à partir duquel je vous pose une question de musique et à partir de là, vous envoyez toutes les super bonnes vannes que vous avez sur la musique. Et vraiment, je suis persuadé que vous allez être extrêmement rigolo aujourd'hui. Je rappelle que les auditeurs également peuvent jouer avec le hashtag FluteABec, FLUTEABEC sur Twitter. Et bah, écoutez, on va pas perdre plus de temps. Alors, je rappelle que vous êtes équipés d'un buzzer tous les quatre. Marine Baousson, faites-nous écouter votre buzzer. Alors, n'hésitez pas à l'approcher du micro pour qu'on l'entende bien. Thaïs Vauquier. Morose. Grégoire Hetzel. Et Hippolyte Girardot. Les buzzers, on sait bien, le buzzer est acquis à chaque fois. Jouons tout de suite à Qui veut gagner la flûte à bec.
France Inter, Thomas VDB, Qui qui veut gagner la flûte à bec?
On reconnaît évidemment,
bah évidemment,
un titre de Louis Armstrong qui s'appelle Melancholy Blues. Ce morceau de Louis Armstrong, Melancholy Blues, il apparaît donc, et c'est un des classiques de Louis Armstrong, et je sais qu'il y a beaucoup de fans de Louis Armstrong autour de cette table. Il apparaît sur un disque sur lequel il a été pressé, disque sur lequel on retrouve également le concerto brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach, le Sacre du printemps de Stravinsky, Johnny B. Good de Chuck Berry, mais également des musiques aborigènes d'Australie, de la musique typique du Pérou, des sons de criquet, des sons de chimpanzé et des sons d'éléphant. Pouvez-vous me dire
quel est ce disque de quoi? C'est un album de Camille.
C'est un album de Camille. Bonne réponse de Marine. Non, c'est pas un album de Camille.
Ça, j'ai fait la merde. Alors, je m'égosille en plus.
Thaïs Vauquer, une proposition.
Les musiques d'attente du Pôle emploi?
C'est pas les musiques d'attente du Pôle emploi qu'on a fait deviner il y a quelques semaines dans la
flûte à bec.
Ouais, on a fait écouter. Alors, avez-vous une idée de ce disque sur lequel...
Ou un film improbable, la BO, le soundtrack d'un film improbable?
Non. Non. Alors, si ça peut vous aider, je peux vous donner un disque. Un indice.
Un indice sur un disque.
C'est un disque qui n'a pas été vendu. Qui ne s'est jamais vendu.
Ah, c'est genre une compile top hit 98, genre qui était au Quick, que tu gagnais menu.
Alors, ça, non, c'est pas un disque non plus qui a été gagné.
Ah.
Alors,
c'est un disque qui a été pressé.
C'est un disque qui a été pressé. Il faut que vous trouviez quel est ce disque sur lequel figurent tous ces morceaux dont je viens de vous parler. Johnny B. Good, Melancholy Blues, Louis Armstrong, Le Sacre du Printemps, des bruits de chimpanzés, des bruits d'aborigènes australiens.
Oh. C'est dur.
Un disque offert aux employés de Radio France?
C'est un disque, non, pas offert aux employés de Radio France. C'est même pas un disque offert, c'est même pas un disque à gagner. C'est un disque... Alors si ça peut vous aider, c'est un disque en exemplaire unique.
Ah, d'accord. C'est un objet, un seul.
Ouais.
C'est une œuvre d'art peut-être?
C'est pas une œuvre d'art. Si ça peut vous aider aussi, ce disque a été gravé en or.
Ok.
Hippolyte Durabo.
C'est pas un disque qu'on a envoyé sur la Lune ou je sais pas quoi pour parler d'extraterrestres?
C'est exactement ça. Le disque de
des chefs-d'œuvre, hein.
Voyageur qui est sur la sonde Voyageur envoyé par la NASA à la rencontre d'éventuelles vies extraterrestres.
Ah, c'est pour ça qu'ils ont mis les singes.
Ils ont mis des singes, ils ont mis des bruits de des bruits de proutes, je sais pas, mais voilà, ils ont vraiment mis des bruits de la terre, des bruits qu'il y a sur la terre.
La première piste d'ailleurs, les proutes, ils voilà, sont vraiment pour se présenter.
La
quoi.
Première piste.
C'est une bonne piste.
Effectivement. Et alors ça, c'est une question que je me pose. Quelle tête ils vont faire les extraterrestres?
Mais surtout, est-ce qu'ils ont un manche-disque?
Est-ce qu'ils ont un manche-disque?
Mais ils étaient fournis avec, non?
Alors j'imagine,
je pense qu'il y a le...
Ça c'est une bonne question parce que c'est comme quand tu montres à des gosses un micro cassette, quoi, un truc à cassette, ils savent pas comment mettre la cassette dedans.
Effectivement, ils savent pas comment mettre la cassette. Écoutez, voilà, peut-être qu'il y a une autre sonde qui va être envoyée avec un tourne-disque, peut-être qu'il y a 1000 ans plus tard.
Et une troisième avec le mode d'emploi.
Une troisième, en tout cas,
un gars pour les aider, peut-être, ce serait peut-être une bonne idée.
Peut-être qu'un gars, ce serait une bonne idée. En tout cas, c'est un premier point qui est remporté pour Hippolyte Girardot. On passe tout de suite.
Ça sera le seul, mais
à la question numéro 2. Du hip-hop, du peura, je sais que vous en êtes coutumiers autour de cette table. On écoute actuellement ce groupe, ce duo de rap californien qui s'appelle The Coop, avec un morceau qui s'appelle 5 million ways to kill a CEO, donc 5 millions de façons de tuer un directeur d'entreprise. Hein.
Bon,
c'est un groupe de gauche, ça, c'est un groupe de gauche. Hein, vraiment. Et ce groupe californien a sorti un album le 11 septembre 2001. Et cet album a été censuré la semaine suivante, sinon même le lendemain. Pouvez-vous me dire la raison pour laquelle ce groupe, The Coop, a subi les foudres de la censure pour son album qui est sorti le 11 septembre 2001? 2001. Il s'est passé exact. Qu'est-ce qui s'est passé dans septembre 2001?
Il n'y avait pas genre une pochette d'album avec les deux tours jumelles et genre limite un avion qui fonce dedans.
Ouais, mais je crois que quand alors, même. Non, le 11 septembre, c'est 2001 ou c'est 2011?
C'est 2001.
Ça, effectivement, on se rappelle que Hippolyte Girardot est quand même plus tout jeune.
Ils confondent les dates.
Ils ont décrit l'affaire.
Non, mais je vais vous le dire tout simplement, la bonne réponse, elle vient d'être donnée par Marine Baousson. Puisqu'effectivement, cet album qui est sorti le 11 septembre 2001 représentait les deux rappeurs devant les deux tours du World Trade Center en train d'exploser.
Ah oui, je me souviens de cette histoire.
Qui était quand même tristement prémonitoire, on pouvait dire.
Ouais, en 2011, donc ouais, je me souviens très bien.
Alors, c'était pas Paco
Rabanne. Ça a choqué pour les 10 ans de l'anniversaire, c'était vraiment.
C'est pas Paco Rabanne. Vraiment, ils se sont pas trompés au niveau de la prémonition. Et en plus, apparemment, une chose qui a vraiment choqué les gens, c'est que sur le disque, il y avait écrit produit par Oussama Ben Laden, ce qui a vraiment, je pense, choqué beaucoup les gens. Ça, c'est vraiment une connerie. C'est vraiment, parce que je vais voir un petit peu tester votre crédulité, qui est une chose que j'aime faire dans cette émission. Un point supplémentaire, un point pour Marine Baousson.
Bravo, Marine.
Ah, bravo. Qui n'est pas venu de Bretagne pour rien.
Ah non,
qui
bah se non, rapproche. Non, j'arrive, Hippolyte, je suis venu.
Ah bah non, mais respect.
Elle se rapproche de la flûte tout de suite. Troisième question.
La farandole.
Et vous la dansez encore? Et vous l'aimez toujours?
Oui, ça oui.
On reconnaît ce classique de Jeanne Calment. Qui s'appelle La Farandole de Jeanne, puisqu'il y a un producteur de musique qui a apparemment poussé l'absence de scrupules jusqu'à aller enregistrer Jeanne Calment qui marmonnait, hein, si j'ose dire, puisqu'elle est, elle a vécu jusqu'à 122 ans, Jeanne Calment. Je sais pas si y en a un ou quatre.
Je sais pas si c'est sa fille. Ouais.
Alors c'est peut-être non, mais là la voix de jeune fille qu'on entend, c'est une gamine qui est en train de parler, qui interview Jeanne Calment sur la farandole et qui dit vous la dansez encore ? Elle dit mais oui, la farandole. Et je pense qu'ils ont vraiment enregistré le mot farandole au moment où elle allait éternuer. Est-ce qu'on peut remettre le moment où elle dit la farandole ?
La farandole.
Voilà, vraiment on sent que il y a un problème de santé. Mais voilà, 122 ans. Je sais pas si on a un seul d'entre vous qui aura le projet de vivre jusqu'en 122 ans. Sur ce morceau, donc vraiment étonnant, ce morceau qu'on a envie d'écouter en boucle, est-ce que vous êtes en mesure de me dire, alors cette question est particulièrement difficile, donc je vais vous aider, j'ai un indice pour vous aider, est-ce que vous connaissez le nom de la flûte provençale dont jouent les musiciens qui accompagnent généralement une farandole ? Faut s'y connaître en flûte provençale ou en farandole. Alors, comme
C'est un nom ?
C'est un mot vraiment qu'on n'entend jamais dans la vie.
Le shakuashi.
Le ?
Shakuashi.
Le shakuashi ?
C'est ça, ouais.
Grégoire Hettel vient de tenter un mot au pif.
C'est du bluff complet.
Non, mais là, vous avez juste collé des syllabes au pif de shakuashi.
C'est une vraie flûte.
Un mot à la consonance typiquement provençale.
Non, c'est une vraie flûte, mais c'est la flûte d'un émigré japonais.
Ok.
En Provence.
Il va très loin sans y croire aussi.
Il habite à Orange, en Provence, on le sait.
Très sympa.
Alors, je vais vous donner, comme c'est hyper dur pour vous donner un indice, je vais utiliser de l'humour de 1875, qui est l'année de naissance de Jeanne Calment. On va faire un rébus. C'est l'heure du rébus. Okay. La première syllabe, c'est synonyme de mec. La deuxième syllabe, c'est un animal qui vit dans les tatouages des fans de Johnny. La dernière syllabe, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Pouvez-vous me dire le nom de cette flûte, vraiment? Devinez un nom de flûte.
Tektoub, Pektoub, Fluktoub, Ruktoub.
Vous avez dit Ruktoub?
Oui.
C'est pas la bonne réponse, alors, Marine Baousson. Mais on sera... Alors, je redis, première syllabe, c'est le synonyme de mec. Deuxième syllabe, c'est un animal qui vit dans les tatouages des fans de Johnny.
Loup.
Galoubé, c'est une bonne réponse.
Oh putain, merde.
Oh là, quand il faut faire des rébus à la radio.
Attends,
ça
mais moi
vraiment...
j'ai confondu synonyme et le même mot en fait.
Ben oui, mais ou un galoubé.
Ah, c'est un. Ah, franchement, je pensais un, mais je pense qu'on a le droit de se tromper. On a le droit de dire qu'on s'en fout. Et moi, je me rends compte que j'ai confondu rébus et charade.
Donc en fait, tout est nul. Je propose que ce point soit annulé.
Non, ce point n'est pas annulé du tout.
On me le donne parce que franchement, j'étais à deux doigts. Non, ok.
Ce point revient complètement de droit à Thaïs Vauquier. Alors voilà, pour information, s'il y a des amateurs de farandole qui nous écoutent, il faut savoir que selon les historiens de la danse, son existence remonte probablement à la préhistoire. C'est-à-dire qu'on dansait déjà la farandole à la préhistoire. Ça, c'est vraiment
c'est
excellent comme info. C'est une bonne info. Le meneur ou la meneuse guide la chaîne en dessinant une forme de serpent. Son rôle est d'articuler la farandole. C'est une danse des rites agraires. Et ça, c'est quand même excellent de le savoir. Parce que c'est une émission, on apprend en s'amusant. C'est vraiment l'idée. En s'ennuyant, si je regarde le visage d'Hippolyte Girard.
Non, c'est intéressant. Cette farandole comme ça en serpent, c'est intéressant.
C'est dommage qu'il ne l'ait pas envoyé sur la Lune, en tout cas, cette chanson.
C'est vrai que, franchement, la tête d'un plutonien qui tombe sur la farandole. J'ai l'impression de se faire engueuler tout de suite par une vieille dame française. Rappel des scores, un point pour Marine Baousson, un point pour Thaïs Vauquier, un point pour Hippolyte Girardot et loin derrière à la traîne, Grégoire Hetzel.
Le seul musicien
Le seul musicien.
Mais j'entends les notes, c'est ça mon problème.
Bah oui, qui avant de rentrer dans le studio m'a dit mais moi je ne connais rien en musique, mais il est encore temps de vous rattraper.
Je n'entends pas les mots.
On écoute tout de suite le morceau suivant. Alors, le spot Orangina, ça c'est vraiment de la bonne musique pour les gens qui aiment les sons de vidéos compressés. Ça vraiment, on se régale. Est-ce que vous pouvez me dire, donc cette pub, on l'a connue, on l'a tous vue beaucoup dans les années 80, alors peut-être moins
mais c'est sympa de le croire.
Voilà, c'est sympa de le croire. Non, je pense que Thaïs et Marine, effectivement, n'étaient pas là à cette époque. Pouvez-vous me dire qui est le compositeur de la mélodie de la pub Orangina qu'on vient d'écouter?
Bah, il est avec nous, non?
Non, il n'est pas avec nous, c'est pas Grégoire
Hedel.
C'est pas Richard Gottener qui effectivement a été l'auteur de beaucoup de chansons de publicité.
Est-ce que ce serait Bachung?
C'est pas Bachung, ça aurait pu. Ça aurait été une drôle d'idée.
Tu sais qu'il y a Bachung qui a besoin de payer ses impôts?
Non, alors Bachung n'a plus besoin de payer ses impôts.
Non, mais à l'époque,
c'est pas Alain Bachung. C'est pas Alain Bachung.
C'est un chanteur?
C'est un chanteur extrêmement connu en France.
Paul Naref.
C'est pas Paul Naref, on est vraiment dans la même époque. De toute façon, la pub date un peu de cette époque-là. Si je peux vous aider, il a un bâton à son nom.
Michel Berger,
effectivement. C'est Michel Berger. Donc on peut lancer, on peut écouter Michel Berger. On peut écouter Michel Berger, voilà. Michel Berger qu'on adore. Le morceau Parabidi Blanc qu'on est en train d'écouter. J'ai découvert que Michel Berger, le premier disque qu'il a écrit, il l'avait écrit pour Bourville. Ça, c'est si vous intéresse de le savoir, le 45 tours de Bourville est sorti et c'est Michel Berger qui a écrit la musique d'une chanson de Bourville. Ça aurait pu être une question, mais j'ai préféré vous poser une question sur Orangina. Et il faut savoir que donc, le morceau qu'on écoute sur Orangina, c'est une chanson qui n'a pas été utilisée pour Starmania, qui l'est proposée à la base pour Starmania, et avec un personnage de bouteille de soda qui arrivait, et vraiment Luc Plamondon lui a dit « Mais tu délires là, hostie de calice !» Voilà. Donc non, évidemment, c'est pas du tout ça, c'est un truc que j'avance.
Est-ce que tu connais ma théorie sur Luc Plamondon, par exemple?
Ah non, mais ça nous intéresse beaucoup.
C'est Catherine Lara. Je pense que c'est la même personne. Quand tu regardes les photos... Catherine Lara, Luc Plamondon, même personne.
Mais c'est vrai que c'est pas... On les a peut-être jamais vus dans la
même
pièce.
On les a jamais vus dans la même pièce.
Il y a vraiment plein de gens qu'on n'a pas vus avec Catherine Lara dans cette pièce.
Oui, mais là, ça particulièrement.
Mais c'est vrai que... Effectivement, en tout cas, belle anecdote. Merci
avec
beaucoup.
Plaisir.
Belle théorie, en tout cas, si j'ose dire. C'est donc un point qui est remporté. J'arrive pas à voir si c'est Thaïs. J'ai donné un point à Thaïs et un point à Marine. Parce que là, franchement, c'est égalité. Vous êtes les Michel Berger. Exactement au même moment. C'est-à-dire, vraiment, c'est les deux qui n'ont pas connu Michel Berger.
C'est Bâton Berger, vraiment, ça, par contre, moi, j'ai bien connu, là, il n'y a pas de problème.
Les deux ont eu la bonne réponse. Je vous propose d'écouter le premier morceau intégral de cette émission. C'est un morceau extrait de la playlist France Inter. C'est un morceau de Otis Cœur. On l'écoute en entier, c'est le morceau qui s'appelle Labrador.
J'ai décidé de ne plus jamais te suivre. Laisser tomber les schémas et prendre la fuite. Un pas de côté, j'ai quitté la piste. N'essaie pas de m'attraper, raye-moi de ta liste. Tu m'as trop souvent dit, tu me dis trop souvent. Souvent tu me le dis, ce matin aussi.
France Inter. Qui veut gagner la flûte à bec ? Thomas Vidibé.
Toujours à l'antenne de France Inter, effectivement, qui veut gagner la flûte à bec ? Est-ce que ce sera Marie de Baousson, Thaïs Vauquier, Grégoire Hetzel ou Hippolyte Girardot ? On en saura peut-être plus après la question suivante. Alors, un indicatif bien connu qui était celui de Canal+.
Quand Canal était Canal.
Quand Canal était Canal, comme dit effectivement Hippolyte Girardot. Pour les abonnés, d'ailleurs. Tout parce que fait. Quand on n'était pas abonné, pendant la chanson, ça faisait... On regardait tout embrouillé. Et donc, ce générique, cet indicatif, il a été composé par Michel Jonas. Michel Jonas, de blues, blues. Et Michel Jonas.
Tu peux refaire Michel Jonas?
Du blues. Voilà. du jazz, du blues. Michel Jonas, donc c'est pour parler de cinéma, puisque c'était l'indicatif de cinéma. Est-ce que vous pouvez me dire la bande originale de film qui s'est le plus vendue de l'histoire? Thaïs Vauquier.
Pas sûr. Titanic?
C'est pas Titanic. N'hésitez pas à spéculer. Grégoire Hetzel, je sens que vous l'avez.
Il était une fois dans l'Ouest.
C'est pas Il était une fois dans l'Est. Ni dans l'Est, ni dans l'Ouest.
Grand Est.
Genre Le Parrain ou un truc comme ça.
Ça n'est pas Le Parrain, Marine Baousson. Non.
Ah ouais.
Alors, Hippolyte Girardot, une suggestion.
Dire, non, autant n'importe le monde. Non, je crois
Rasta Rocket.
Non, pas Rasta Rocket. C'était la bonne réponse. Non, c'est pas la bonne réponse.
James Bond.
C'est pas James Bond. Même si peut-être que si on les additionnait tous, ce serait probable. Mais non, non, non. Non, non, c'est un film des années 90.
Indiana Jones.
C'est pas Indiana Jones.
C'est un film des
années
90.
C'est pas Star Wars.
Ah merde.
Le Seigneur des Anneaux.
C'est un film français.
C'est pas Le Seigneur des Anneaux, ce n'est pas un film français. Si ça peut vous aider, l'actrice principale du film est aussi la chanteuse.
Ah, c'est Bodyguard.
Bodyguard, c'est la bonne réponse.
Bravo.
De Thaïs Vauquier, voilà, évidemment.
Bien sûr, évidemment.
Thaïs, tu prends des points.
Thaïs qui commence à prendre de l'avance, effectivement, I will always love you.
Encore une fois, peux-tu le redire?
I will always love you.
Il existe une chanson, une version de cette chanson sur internet chantée par un chien. Qu'on ne va pas écouter parce qu'il faut vraiment la regarder pour que ce soit drôle. Mais non, il faut la regarder. C'est sur American Idol. Et donc, il y a quelqu'un qui est invité devant le jury d'American Idol et il vient avec son chien. Et le gars, il dit, alors vous allez faire quoi? Il dit, bah, je vais faire chanter mon chien. Mais il faut que vous mettiez le 10 de Whitney Houston. Donc, ils mettent le 10 de Whitney Houston. Et quand elle fait, and I, et là, le chien fait,
Golden
et donc,
Buzzer.
Et le public
c'est un Golden Buzzer.
Le public est debout. Bonne réponse de Thaïs Vauquier.
Bravo Thaïs. Là, franchement, c'était classe.
Vous êtes toujours dans l'émission grâce à laquelle vous vous cultivez le samedi matin. Un point supplémentaire pour Thaïs Vauquier. On écoute tout de suite la question suivante. On écoute Lee Scratch Perry, qui est un des musiciens emblématiques de Jamaïque, avec le morceau Beat Down Babylon. Mais bon, en général, j'ai pas besoin de dire Babylon, parce qu'il y a souvent Babylon dans les noms des morceaux de reggae quand même.
Reggae, Beat Down.
Alors, on sait que les plantes aiment Mozart. Ça, on sait qu'on a remarqué que les plantes, elles poussent mieux quand il y a Mozart et tout. Il y a des chercheurs britanniques qui ont montré que les chiens sont particulièrement sensibles au reggae. Voilà, et donc, et que les vaches, par exemple, produisent sensiblement plus de lait à l'écoute de Everybody Hurts de Rem ou de The Sound of Silence de Simon & Garfunkel. Ça, c'est des chercheurs qui font des recherches. Je sais pas comment ils font leurs recherches là-dessus.
Mais c'est important.
S'ils commencent par l'animal ou par le style musical, est-ce qu'ils disent, ouais, on va écouter le dernier Julien Clerc à des moustiques, et puis ensuite, on voit.
S'ils piquent ou pas, ouais.
Et puis cet après-midi, c'est Clara Luciani à des tarentules. Enfin, vraiment, je suis débordé, voilà. Mais que se passe-t-il si vous faites écouter du métal à des termites? Alors, qu'est-ce qui se passe si on fait... Donc, si on fait écouter du reggae à des chiens, ils sont plus calmes. Thaïs Vauquier.
Elles se reproduisent.
Elles ne se reproduisent pas, non.
Elles meurent.
Elles ne meurent pas. Non, 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 Grégoire. Alors, peut-être une autre suggestion.
Une termite se termine. toute seule, elle se suicide, quoi.
Non, elle ne se suicide pas, elle ne meurt pas, donc elle ne se suicide pas, donc elle se pend. La thermite se pend.
Elle se batte.
Non, elle ne se batte pas, non.
Elle bouffe deux fois plus de bois.
Elle mange deux fois plus vite.
Mais Thaïs,
elle pousse tout flanc, et c'est exactement la vitesse à laquelle elles le font. Elle mange deux fois plus vite.
Avec le métal.
Et voilà, et avec du métal. C'est-à-dire que, voilà, si vous n'avez pas de hache, écoute, vous pouvez couper du bois, vous mettez ça, par exemple. Voilà, et là. Et là, tout de suite, et ben, la termite, voilà, elle boulotte, et vous avez tout votre stock
mais
de bois
qui incroyable. Est
intégralement
c'est
coupé.
C'est quoi, c'est Slumdog Millionnaire?
Alors, c'est Slumdog Millionnaire. Là, j'avoue que Thaïs Vauquer, on dirait clairement que, bah, disons tout net, vous avez triché. Vraiment, vraiment que vous êtes venu. Vraiment étonnant. Vraiment, 5 points pour Thaïs Vauquer, 2 points pour Marine Baousson, 1 point pour Hippolyte Girardot, Grégoire Hetzel, je ne rappelle même pas combien, quel est votre score de points, puisque il n'y a pas de score. Il n'y a pas de score, tout simplement. On écoute tout de suite l'extrait suivant.
Elle, je ne veux qu'elle, et son amour fragile, tendre et sauvage. Elle, je ne veux qu'elle, pour l'emporter, l'aimer et vivre ensemble. Elle.
Donc on reconnaît Ringo, qui n'est pas Ringo Starr. D'ailleurs, je ne sais même pas si on le reconnaît, mais bon, voilà, c'est Ringo. Ringo qui était le mari de Sheila. Voilà, qui a fait plein de tubes, et ce morceau s'appelle Elle, je ne veux qu'elle en 1974. L'ex-mari de Sheila, donc on écoute à l'instant, a fait une reprise d'un titre mythique anglo-saxon en français, en essayant juste de coller à la sonorité des paroles en français, mais vraiment comme un gros boucher. Est-ce que vous êtes, et donc ce morceau s'appelle Dites-moi qui est ce grand corbeau noir. Est-ce que vous êtes capable de me dire de quel morceau Dites-moi qui est ce grand corbeau noir est-il la reprise?
Thaïs, je pense que tu vas nous donner la réponse.
Oui. Thaïs, alors Thaïs,
sur quelle année?
Alors le ben, je ne sais pas.
Attends, moi j'ai pas compris.
Alors je pense que le morceau,
est-ce que c'est Ringo?
Alors Ringo a fait une reprise d'un morceau mythique.
Qu'il a traduit ce morceau... mot pour mot?
Non, il a pas traduit mot pour mot, il a essayé de coller à la phonétique et il a décidé que ce morceau s'appellerait Dites-moi qui est ce grand corbeau noir, mais de quel morceau mythique Dites-moi ce grand corbeau noir est-il la reprise? Alors si ça peut vous aider, je vais vous mettre le rythme. Dites-moi qui est ce grand corbeau noir. Donc c'est une mélodie qui est vraiment sur ce rythme-là. Je peux vous dire que je l'ai vraiment très bien fait. Dites-moi qui est ce grand corbeau noir.
On dirait du Dorothée.
C'est pas Dorothée, c'est la même époque. Hein. C'est 1984. Je crois que c'était le premier single qui a été diffusé sur MTV.
Est-ce que c'est du David Bowie?
À l'époque, c'est pas du David Bowie. C'est un morceau d'un groupe qui a pas fait beaucoup d'autres morceaux connus. C'est vraiment le
tube. C'est... Ouais.
Alors, c'est un morceau qui critiquait, enfin qui parlait en fait de l'arrivée de la vidéo et qui allait un petit peu
Video
nuire.
Kill the Radio Star.
Video Kill the Radio Stars.
Ah, j'en ai marre.
Bonne question de Thaïs Vauquer.
Je propose qu'on donne directement la flûte à Thaïs.
L'humiliation commence à être complète, vraiment,
ah oui, vrai.
Pour
c'est
tous
vrai.
Les autres candidats.
Et c'était très bien fait, ton imitation, je trouve.
Dites-moi qui est ce grand corbeau noir. Bah, c'était quand même
moi, c'est plus la traduction mot pour mot que tu avais juste après qui m'a aidé.
Effectivement, avec la... Oui, bah, évidemment. On sait tous que le grand corbeau noir, ça veut dire « kill the radio star ». Voilà, on sent que vraiment, les gars, ils se sont pris la tête pour que ça colle au maximum sur les sonorités en
c'est
anglais, mais ils n'y arrivaient pas. Très bien, je propose, alors je rappelle qu'on est avec Thaïs Vauquer, Marine Baousson, Grégoire Hetzel et Hippolyte Girardot. Hippolyte Girardot, pardon, mais bah, j'ai fait
merci,
un peu d'actu.
Je suis un peu déçu.
Quoi
un peu,
ah bah, je vois la déception dans vos yeux, Grégoire Hetzel. Hippolyte Girardot, bah, je fais une petite parenthèse, vous allez sortir un livre à la rentrée?
Ouais.
Chez Seuil.
En octobre.
En octobre.
Un peu.
Et c'est un roman, c'est un essai.
C'est un récit romancé, on pourrait dire.
Ok.
Voilà, sur un truc qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune, avant que je fasse plein de choses. Voilà, un truc qui m'a un peu touché.
Mais tu racontes après aussi, non? Moi j'avais lu quelques pages, tu racontes après aussi.
Non, mais n'écoutez pas Grégoire.
Mais même là, Grégoire,
je l'ai mythifié plusieurs fois.
Même donc dans la vie, maintenant... il n'y a pas les bonnes réponses.
C'était la virgule promo, je voulais en savoir
merci,
un petit peu plus
merci,
sur le livre de Hippolyte Girardot qui sort à la rentrée.
Et comment ça va s'appeler?
Un film disparaît.
Un film disparaît. On sent un casting raté, là, peut-être, pour Hippolyte Girardot. Peut-être, non,
non
c'est pas le cas. Okay.
C'est la traduction exacte, en fait, d'un autre film.
Ah, bah, c'est ça.
qui a été fait en
États-Unis. Un film disparaît.
Voilà, oui, c'est ça.
On écoute tout de suite le morceau pour la question suivante.
Precious kisses, what's happened to me? Love has never
écoute donc le tube du premier groupe de Boy George. Boy George, il avait un groupe qui s'appelait Culture Club dans les années 80.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez me dire, celle-là, elle est pas très facile, mais bon, okay,
mais
les autres en même temps, ouais, ça n'a pas changé avec les autres. Pourquoi Boy George a-t-il été en bisbille,
voilà,
avec l'église orthodoxe grecque de Chypre en 2011?
Elle
est quand même facile, celle-là.
2011, l'année des attentats.
Ouais, l'année des attentats, la même, bravo.
Selon Hippolyte Girardot.
C'est bien, parce qu'elle suit, il y en a une qui suit, ça fait plaisir. Bien,
Hippolyte
c'était...
qui portait un brassard noir en 2011, toute l'année 2011, à cause des attentats du 11 septembre.
Eh oui, c'est comme ça.
Qui est sorti de son puits dans lequel il habitait toutes les années 2000, ah, et on l'a averti de la chute des tours en 2011.
Ça m'a fait un peu peur, ouais.
Et c'était le mélodrame pour ce pauvre Hippolyte. Alors, pourquoi Boy George a-t-il été en bisbille avec l'église orthodoxe grecque de Chypre en 2011? Marine Bausson.
Parce qu'il s'est habillé comme un gars qui était là-bas dans un clip.
Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, non. Hippolyte.
Bah parce qu'il a porté une croix sur un costume qu'il avait dans un clip.
Non, 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 c'est pas pour ça. C'est la même chose. C'est pas pour ça, c'est beaucoup plus difficile que ça à trouver.
Ah oui,
d'accord.
Ah.
Non, non. Alors. En fait, je veux dire, il s'est fait griller pour un truc qu'il avait chez lui. Si ça peut vous aider.
Il a piqué quelque chose et ça s'est vu dans un reportage.
Genre, dans un clip, ça s'est vu dans son clip.
Je vais l'accepter, ah oui, cette réponse de Marine Bausson. Oui. C'est pas, il l'a pas piqué, mais exactement. Ce qui se passe, c'est qu'en 1985, Boy George a acheté en toute bonne foi une icône chypriote du 18e siècle, un marchand d'art londonien. Et un jour, il donne une interview à la télé. Et là, il y a un évêque chypriote. Je sais pas pourquoi. Il regardait une interview de Boy George, l'évêque chypriote. Je sais pas savoir
parce
pourquoi.
Parce que, on sait très bien pourquoi.
On sait très bien pourquoi.
Ça va, on les connaît, les évêques chypriotes.
Et on s'en connaît. On embrasse tous les chypriotes qui nous écoutent. Et ils sont nombreux, on le sait. Et donc, l'évêque chypriote, il tombe devant l'interview de Boy George et il reconnaît cette icône qui a été volée. Une icône qui avait été volée par les Turcs. Je veux pas dire de bêtises, vraiment une trentaine d'années plus tôt. Je veux pas dire, parce que si c'est pas le cas, je vérifie mes notes, parce que si c'est pas les Turcs, on risque d'avoir un petit peu des problèmes. Voilà. Non, c'est les Turcs qui avaient volé. Et donc voilà, et donc il y a une cérémonie qui a été organisée pour la restitution de cet objet. Donc Boy George s'est retrouvé en face de tous les évêques chypriotes. Il a dit sorry et il a rendu l'icône chypriote.
Et il a récupéré son pognon ?
Non, parce qu'il a rendu sans demander d'argent.
C'est
mais il est comme ça. Mais ah oh oui, il est
c'est
bon.
Un...
C'est un gars qui a bon fond, Boy George. Ouais. C'est pas George, c'est Boy George.
Il est gentle boy.
Il est complètement gentleman. C'est donc un point. Bravo pour Marine Bausson.
Ah bah, je suis bien contente.
Vraiment.
Alors la Thaïs tremble.
Ah,
Thaïs.
Oui, oui, oui.
Vraiment, l'écart se creuse entre Marine Thaïs et Grégoire Hetzel, puisque
Grégoire Hetzel... En plus, au début, on voulait jouer en équipe. Hein.
L'écart ne fait que se creuser. Avec Grégoire Hetzel, tout de suite, le morceau suivant.
Toi,
je peux m'allier à Thaïs.
Je fais des fortes, ça fait bien. Là, je suis ailleurs. Sous les spots et leurs regards, je fous le fire. Qui va me calmer? Pépère m'en caler, je veux que ça me snap. J'aime leur danse et leur caméra. Je suis pas là pour leur Pamela, je suis là.
Donc, on reconnaît le rappeur savoyard Keiko.
Bien sûr.
Qui est également acteur de Plus belle la vie. Ça, c'est parce qu'on me l'a dit, c'est pas parce que je savais. Ce chanteur, il a écrit un titre rap à la gloire d'un homme politique. C'est exactement le morceau qu'on écoute d'ailleurs, mais sauf qu'il n'y a pas d'indice dans l'extrait qu'on vient d'écouter. Un homme politique qui participe également au clip de la chanson qui porte son nom. Quel est cet homme politique en qui le morceau qu'on vient d'écouter est en hommage?
Jean Lassalle.
Jean Lassalle!
Non, c'est pas possible.
Non, mais c'est triché. Non, mais là, c'est énervant. Là. Non, il y a Jean Lassalle, c'est la réponse. C'est Jean Lassalle. Non, mais là, c'est énervant, Thaïs. Là.
Non, c'est pas possible.
Parce que c'est du mauvais esprit d'arriver avec toutes les bonnes réponses.
Moi, je m'en vais. Hein.
C'est alors, de la dictature. Grégoire Hetzel.
Et bien, en plus, elle l'a dit au pif. C'est ça qui était génial.
C'est parce que moi, il me fait trop rire. Si je devais écrire du rap, ce serait sur lui.
Exactement. C'est Jean Lassalle.
Est-ce que tu peux rapper pour nous sur Jean Lassalle?
Alors Jean Lassalle.
Ça fait. Jean Lassalle, la salle de classe, parce que t'as la classe. Ouais, je suis meilleure en réponse qu'en humour. Hein. Malheureusement, c'est mon travail.
L'époustouflant talent de Marine Bausson et Thaïs Vauquier qui partent en appro au quart de tour avec Jean Lassalle. Vraiment, on croit vraiment que vous continuez de tricher, Thaïs. Vraiment,
j'avoue que je suis.
On est vraiment dans une dictature de la bonne réponse.
Ouais, c'est vraiment.
On laisse la place pour personne d'autre. Je propose d'écouter le deuxième morceau intégral de cette émission. C'est Yaya Bey. Ben oui, Yaya Bey, vraiment qu'on écoute si souvent. Avec son morceau qui s'appelle On the Pieces Moon. Cet extrait de la playlist France Inter, c'est tout de suite.
Baby, is your heart to
Qui veut gagner la flûte à bec ? Thomas VDB.
Et alors là, on s'écoute une bonne vidéo de cloche. Ça compte pas vraiment comme un extrait musical d'écouter des cloches. Je sais pas s'il y a des. C'est quand même agréable.
C'est sympa.
Ça, c'est quand même.
Voilà, ça me détend moi, énormément.
Presque laisser en fond sonore jusqu'à la fin. J'ai envie d'aller à la messe moi quand j'entends ça. Alors je sais pas si ça compte vraiment pour de la musique, mais on est en train d'écouter vraiment une vidéo de cloche. C'est la vidéo des cloches de l'église Saint-François de Vareil de Saint-Pierre-le-Vieux en Vendée.
Oui, j'aime beaucoup.
On les reconnaît.
Alors, je préfère ces cloches-là à celles de
Limoges.
Ouais, oui, Saint-Jacques de Didonne. Bon après j'ai pas
alors,
envie de Saint-Georges de Didonne.
Alors on voit la connaisseuse en cloche Marine Baousson.
Je connais pas mal en cloche.
Pour Vargan, c'est très connu.
Puisqu'on écoute la vidéo des cloches d'une église de Vendée, est-ce que donc, je vous pose
comment
une question
comment écouter la vidéo, excusez-moi.
Parce que on a pris le son de la vidéo, tout simplement. Ça, c'est vraiment une technique.
Mais ça s'appelle un carillon.
C'est un carillon. Ouais. Ah ben, c'est les cloches d'une église, en tout cas. Ouais, c'est un carillon.
Carillon, mais c'était pas une question.
C'est pour ça que t'as pas les bonnes réponses depuis tout à l'heure. C'est parce que je suis pas assez précis avec les mots.
Et le fait qu'il met pas le casque aussi, ça.
Le mec a zéro point depuis tout à l'heure, qui se plaint, qui pas cloche.
Il a pas activé le son.
Il entend pas les questions.
Vas-y.
Alors, puisqu'on écoute des cloches, est-ce que vous êtes en mesure de me dire ce que veut dire pour un artiste de décrocher la sonnerie d'or? Qu'est-ce que ça représente pour un artiste de décrocher la sonnerie d'or?
Dans quelle église?
Alors, c'est pas dans une église, justement, c'est vraiment...
Décrocher la sonnerie d'or?
Qu'est-ce que ça veut dire quand on est un artiste et qu'on décroche la sonnerie
d'or? Est-ce que c'est on vend un certain nombre d'albums?
Non, un certain nombre de sonneries de téléphone.
Oh, un point! Oh, le point!
Mais je suis tellement heureux.
Oh, ben oui! On l'invite au restaurant.
Bravo!
Exactement.
Donnez-lui la flûte, écoutez.
Et qui a eu la sonnerie d'or cette
année? C'est quand un artiste vendait plus de 100 000 sonneries. Je dis vendait parce que c'est un truc qu'on fait moins d'acheter des sonneries de téléphone aujourd'hui. Quand un artiste vendait plus de 100 000 sonneries de téléphone de son titre, eh ben, il décrochait la sonnerie d'or. C'est le cas de Akon avec le morceau Lonely. Et on l'écoute vraiment avec le son téléphone.
Oui, oui, oui.
C'est vraiment, je crois que ça vient d'un Nokia.
C'est que des 30 secondes en plus.
ça me réussit. Vous êtes bien sur le téléphone de Marine, laissez-moi un message.
Comme en 2011, tu sais.
Allô,
où tu laissais.
Non, je rigole, c'est ma messagerie.
Alors, est-ce que c'est flatteur pour un artiste de remporter la sonnerie d'or?
Franchement, c'est bien d'avoir la sonnerie d'or.
Ouais, mais est-ce que c'est un truc que tu le dis à tous tes potes musiciens? Ah, dis donc, je peux dire, on a fait une teuf chez SFR. Après, est-ce que j'ai la sonnerie d'or?
Moi, je trouve que oui.
Ouais, c'est un peu stylé à l'époque. Aujourd'hui, moins. Parce aujourd'hui, que c'est forcément des mamies qui ont ça.
C'est forcément des mamies qui ont récupéré le vieux Nokia de leur petit-fils.
C'est moins chic que gagner la flûte à bec.
C'est moins chic que gagner un disque d'or. Quel est le trophée? Quel est le trophée quand on remporte la sonnerie d'or? Je me dis, c'était quoi qui était remis dans les maisons de disques?
Genre quand ils étaient téléphone
là, ouais,
un téléphone?
C'est un Motorola, je crois.
Un Motorola.
Vraiment, un clapet, quoi.
Ben moi, j'ai un pote, il est Freebox d'argent. Voilà, bon, ça c'est bon, je vous le dis. Cette blague, elle m'est venue à l'instant, mais je vous l'ai dit. C'est donc un point pour Grégoire Hetzel, vraiment Grégoire.
Oh là là,
égalité. Voilà.
Il y a une émotion.
Beaucoup, beaucoup d'émotions dans le studio de Qui veut gagner la flûte avec. On va écouter tout de suite le générique d'un film qui est sorti en 1938, qui est un film fantastique, mystérieux. On l'écoute et on en parle après. Alors, ce qu'on est en train d'écouter, c'est le générique d'un film de Christian Jacques qui est sorti en 1938, qui s'appelle Les Disparus de Saint-Agile. Et Les Disparus de Saint-Agile, moi, je l'ai vu il y a longtemps, pour que je m'en souviens, c'est un peu entre Les Diaboliques et Le Cercle des Poètes Disparus. Ça se passe dans un pensionnat, donc c'est une histoire un peu mystérieuse. La musique de ce film, elle est signée à un compositeur qui s'appelle Henri Verdun. Et si on l'écoute en entier, on va écouter la suite de ce morceau, on va voir qu'elle évoque celle d'un film à succès colossal, qui est paru des années plus tard, au point qu'on en accuse le compositeur de la musique de plagiat, ou de s'en être inspiré. Pouvez-vous me dire quel est ce film au succès colossal dont on a accusé le compositeur de s'être inspiré de la musique des Disparus de Saint-Agile qu'on vient d'écouter? Grégoire Hetzel,
le concierge.
Dès que je vais vous la faire écouter. Dès que je vous la fais écouter, sinon vous allez tout de suite trouver. Donc il faut que vous deviniez le nom de ce film, un des plus grands succès du cinéma. Si
français, donc du cinéma français.
Non, du cinéma international.
International, justement. Mondial.
Mais c'est un compositeur français qui a choré?
Non, pas du tout. Non, c'est un compositeur américain. À ma connaissance, en tout cas, je crois qu'il est américain.
Star Wars.
Deuxième bonne réponse. Oh là là. Deux.
Attends, mais ce qui est incroyable, c'est que...
Attends,
moi j'ai un autre truc, c'est que John Williams a mis 6 mois à pondre le thème de Star Wars, dit-il.
Alors c'est que ça le mec qui a incroyable. Fait
la place, c'est un peu long.
Alors, est-ce qu'on peut écouter la suite du générique des Disparus de Saint-Agile?
Ah ouais.
Alors, effectivement, Grégoire, qui est compositeur, dit ça n'a rien à voir, mais il faut savoir que quand on regarde le générique de ce film, des Disparus de Saint-Agile,
il y a un mec habillé en noir qui a de l'asthme qui marche.
Non, mais quand on regarde le générique, les lettres apparaissent inclinées du bas de l'écran vers le haut, exactement comme dans le générique de Star Wars, avec une musique qui est celle qu'on vient d'écouter, qui fait énormément quand même penser à celle-ci. On va se mentir.
Qui a gagné la sonnerie d'or, d'ailleurs, je crois, l'année dernière.
Je pense la sonnerie de platine, tous les ans, il a gagné celle-là.
C'est quand même.
Oui, il y a un
alors,
truc.
En tout cas, je vous laisse aller taper le générique des Disparus de Saint-Agile dans YouTube et de voir les multiples accusations de plagiat dont Henri Verdun fait l'objet. Je trouve que Grégoire Hetzel, qui a quand même trouvé le point, donc c'est votre deuxième point, Grégoire.
Bravo, Grégoire.
Vous n'étiez pas d'accord avec le plagiat là-dessus?
Non, c'est pas ça, c'est compliqué. On a 12 notes, c'est compliqué. Et peut-être que l'autre lui a demandé de s'inspirer en plus de cette musique, si ça se trouve.
Effectivement, peut-être c'est le cas. Mais
parce que moi, souvent, les réalisateurs me demandent de m'inspirer de musique, tu vois. Donc,
j'aimerais que tu fasses une musique.
Tu vas changer, tu changes des notes, des machins, tu changes un peu le rythme.
Est-ce que tu pourrais faire tu ça sera quand même une bonne musique de film.
Et après, les classiques l'ont fait aussi tout le temps.
Voilà, mais ce qui est très troublant, comme je disais, c'est vraiment de voir ces lettres qui remontent du bas en haut de façon inclinée sur le générique et ce personnage asthmatique, effectivement, comme disait Thaïs Vauquien, qui apparaît avec sa cape noire, qui s'appelle Jean-Claude. Jean-Claude.
Pas dommage, c'est dommage.
Un point supplémentaire pour Grégoire Hetzel. On écoute tout de suite le morceau suivant.
Thank you.
écoute un morceau de Sidney Bechet qui s'appelle Petite Fleur. Une composition qui figure parmi les plus célèbres de son répertoire et de l'histoire du jazz, qui s'est vendue à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde. Ah. Êtes-vous en mesure de me dire pourquoi le clarinettiste et saxophoniste Sidney Bechet a été expulsé de France en 1928?
Ah putain, je l'ai su.
Donc c'est avant les Tours Jumelles.
C'est avant Éric Zemmour. Non, c'est avant Éric Zemmour.
C'est avant, parce qu'il s'appelait Sidney, c'était pas Maubeuge Béchette, par exemple.
Il a volé quelque chose.
Il n'a rien volé.
En 1928.
28.
Attends, j'ai su cette histoire.
Il a pas payé ses impôts?
Non. Bah, il est
pas. Bah, peut-être qu'il avait une petite maison de.
Non. C'est pas
une affaire de mœurs.
De meurtre.
Il a tué quelqu'un.
Alors. Il n'a pas exactement tué quelqu'un.
Il a été complice d'un meurtre.
Il a tiré au revolver sur son guitariste banjoïste Mike McKendrick, qui était un peu les Booba et Caris de l'époque, hein, Sidney Bechet. Et c'est vrai que c'est de se dire que quand même Sidney Bechet, pour un clarinettiste, il avait quand même bien la confiance, je trouve. Et il s'est retrouvé 11 mois en prison à Fresnes cause de l'algarade. J'ai bien dit le mot algarade. Ouais. Et donc voilà, et il a été expulsé de France. Et surtout que c'était déjà fait expulser d'Angleterre suite à une bagarre dans un bar pour laquelle il avait déjà passé 15 jours en prison. Voilà, donc Sidney Bechet, vraiment un sacré bad boy.
Ouais, et il écrit Petite Fleur.
Et il a écrit Petite Fleur des années plus tard. Est-ce que vous êtes déjà battu avec des jazzmen? Peut-être dans mes invités. Marine Bausson.
Jamais, ça ne m'est jamais arrivé.
Non,
et je regrette d'ailleurs. Énormément.
Coucher avec.
Ah, ça compte pas pour battu.
Enfin, ça dépend ce qu'on a fait, mais là, ça va.
On n'était pas là, on ne peut pas savoir. Grégoire, Hippolyte, sur le jazz.
Chanteur de jazz, mais pas bagarre. Discussion sérieuse.
Musclée.
Discussion sérieuse de jazz dans des ambiances feutrées, avec des petits cigares, évidemment. Bonne réponse, donc. Je donne le point à Marine Bausson et Thaïs Vauquer qui ont eu le point en même temps. Elles ont eu le point en même temps.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Elles ont rien dit.
C'est vraiment la pire bonne réponse du monde.
En plus, moi, j'ai dit qu'il avait volé.
Moi, tout à l'heure, j'ai dit Star Wars. C'était pas pour la. J'avais dit Star Wars pourtant. C'était pas pour la bonne question, c'est vrai, mais au moins, je l'avais dit.
Ah oui.
Voilà, c'est pas. Non, mais cette émission est quand même très spéciale.
Moi, j'ai rien dit, je pense. Donc, je pense que je peux laisser. Soyez honnêtes, les filles.
Bon, allez, je donne un point. Je donne un point à tout le monde. Ah, écoutez, voilà, je pense que c'est plus simple comme ça.
Greg.
Tout de suite, la question suivante. On a reconnu bien évidemment la musique du Parrain de Nino Rota, qui est en l'occurrence interprétée par André Rieu. André Rieu, qui est le célèbre musicien en cheveux longs. Nino Rota, il a formé pendant des années un duo avec le réalisateur Federico Fellini, une collaboration unique qui a duré pendant plus de 16 ans. Pourtant, selon les dires du cinéaste Federico Fellini, Nino Rota avait peu l'occasion de voir ses films lors des projections de travail. Pourquoi ?
Il est aveugle !
Il n'est pas aveugle.
Ça suffit.
Il avait trop de travail.
C'est très bien que tu n'aies pas trouvé la
raison. Il a un conservatoire.
Alors, peut-être qu'il avait trop de travail, mais quelle pourrait être la raison pour laquelle
il travaillait avant ?
Il est claustrophobe.
Il travaillait avant, souvent il se retrouvait autour du piano, il jouait les thèmes, il lui racontait l'histoire, etc. Il trouvait les thèmes avant.
Ah, il faisait tout à l'oreille ?
Non.
Sauf que ce thème vient d'un autre.
Il déteste son travail.
Non, toujours pas. Vous êtes toujours pas.
Il avait posé un jour de grève pour aller manifester contre les retraites.
C'était ça.
Non, mais il composait avant. Il aimait bien.
Oui, mais c'est les thèmes. C'est quoi la question en fait ?
Fellini lui racontait.
C'est vrai, c'est quoi ?
Quelle est la raison pour laquelle Nino Rota n'avait pas l'occasion de voir les films pendant les projections de travail ? C'est-à-dire même une fois que la musique était composée.
Parce qu'elle n'était pas mise dessus à ce moment-là.
Si, même une fois que la musique était composée, Fellini la mettait sur le film et il a projeté à Nino Rota.
Ça le déprimait.
Mais il habitait trop loin.
Il avait aucune envie d'entrer. Sa musique.
On n'est pas très très loin, Grégoire Hetzel. Qu'est-ce qui se passe quand on est déprimé, qu'on a beaucoup travaillé?
Il était épuisé, il s'endormait tout le temps.
Il s'endormait systématiquement.
Je le sais parce que ça m'arrive.
Voilà, c'est ça.
Je sais quand on est compositeur.
La grande fierté. bloqué dans la phrase de ça m'arrive.
Non, c'est mon seul point commun avec Nino Rota.
Je sais
oh,
que
comme t'es modeste.
Quand on fait des musiques de films et qu'on s'endort pendant la projection du film et qu'après le réalisateur vient de dire alors ça t'a plu j'adore le milieu, la scène au milieu. Effectivement, comme disait Fellini, Nino Rota n'a jamais pu regarder un de mes films par avance. Pourtant, il était le compositeur des plus inoubliables mélodies de mes films. Il me demandait juste quelques indications, quelle atmosphère je devais développer dans tel ou tel film. Et chaque fois que Nino assistait à une projection de travail, il s'endormait. Voilà, donc ça c'est ce qu'il racontait aux Inoccupibles en 2020. Je crois que j'ai pas mal de points communs avec Nino Rota, parce que moi aussi je peux pas regarder un film de Fellini sans m'endormir systématiquement. Voilà. Peut-être faudrait que je me mette à composer des musiques de films. On écoute tout de suite le morceau suivant. Franz Ferdinand, bon, ce morceau on le connaît tous, Take Me Out, le premier énorme tube de Franz Ferdinand, ce groupe écossais. Pouvez-vous me dire pourquoi Alex Capranos, chanteur de Franz Ferdinand, qui au moment du deuxième album de Franz Ferdinand a voulu se rendre en Russie pour assurer une série de concerts avec son groupe, n'a pas pu rentrer dans le pays? La raison pour laquelle Alex Capranos n'a pas pu rentrer en Russie au moment de la tournée de son groupe au deuxième album?
Parce que ses parents étaient trotskistes.
Non.
À cause du nom du groupe ?
Non.
Il avait un tatouage ?
Il n'y a pas de tatouage. Enfin, c'est pas la raison.
Il n'aimait pas la poutine ?
Non.
D'accord. Je suis désolée, c'est que des jeux de mots très gênants.
Non.
Là, ils sont bien.
Parce que il avait des origines.
Non, il n'avait pas d'origine. Non.
Il a oublié son passeport.
Bonne réponse. Non, c'est pas ce moment-là. Non.
À cause d'une chanson.
C'est pas à cause d'une chanson. Je veux dire, si ça peut vous aider, c'est à cause de son nom.
Ferdinand.
Non, Alex Capranos.
Ah, Capranos.
Capranos.
Capra. Il y avait un agent secret qui s'appelait Capranos.
Très bonne réponse de Grégoire Hetzel. Magnifique. Alors, vraiment, époustouflant de bonnes réponses.
Tu vas pas être dans tous les losers.
Ça combien,
alors, Alex Capranos portait le nom de famille de sa mère, qui est Alex Huntley, quand il est rentré en Russie. Il n'a pas pu rentrer en Russie parce que les services secrets russes détenaient le nom d'un espion américain qui avait emprunté ce pseudo de Alex Huntley et donc qui était sur la liste des recherches. Et donc, quand les Russes l'ont vu arriver, ils ont dit « Vous êtes l'espion américain qui est recherché depuis tant de temps » alors qu'il était juste le pseudo, il avait le même pseudo que cet espion américain.
Incroyable.
Et que c'est une remontée fulgurante. Vraiment, de Grégoire Hetzel.
Magnifique.
Qui vraiment se retrouve... Ben, c'était la dernière question, donc on est seulement...
Donc, il se réveille.
Vous avez la flûte d'argent. Vous allez repartir avec la flûte d'argent.
Allez.
Non, parce que c'est déjà malheureusement la toute dernière question de cette émission. Je vous remercie chaleureusement tous d'être venus.
Merci beaucoup.
Et si je fais le compte des points, c'est évidemment Thaïs Vauquer qui remporte la flûte à bec.
Bravo.
Merci Thaïs, merci Marine Baousson d'être venue de si loin en plus pour participer à cette émission. Merci, donc je rappelle que vous avez un podcast qui s'appelle Vulgaire, il y a également le livre.
Le livre, le spectacle, enfin vraiment je fais tous les produits dérivés.
Dès qu'il y a écrit Vulgaire, c'est Marine Baousson.
C'est moi.
On n'hésite pas, on fonce.
Les gens de la vérité, mais...
Thaïs Vauquer, vous êtes également en tournée toute l'année prochaine avec votre spectacle.
Bien sûr, et je fais le théâtre du gymnase et après je fais... parce que du coup maintenant que j'ai ma flûte, j'ai un peu plus de présence et je fais aussi la cigale, le 17 février. Allez.
Le 17 février à Paris. Merci d'être venu jouer avec nous, Thaïs. Grégoire Hetzel.
Moi, je fais plein de trucs.
Évidemment, on fait plein de trucs. Alors, plein de musique de film.
Non,
déjà.
Mais surtout, là, je suis en tournée avec Catherine Ringer sur un spectacle qui s'appelle L'érotisme de vivre. Oh. Et on a plein de dates, septembre, octobre, novembre, décembre.
Génial. Eh ben, bravo en tournée. Catherine Ringer d'Erita Mitsuko. Hippolyte Girardot, un livre à la rentrée au Seuil.
Qui s'appelle Un film disparaît.
Un film disparaît. Mille merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. C'est un bonheur. Je remercie également toute l'équipe qui a assuré avec moi. Je rappelle que la semaine prochaine, d'abord, il y a quand même en invité Cyril Dion, Xavier Lacaille, Alina Fanoukoué et Mathilde Serrel qui viendront jouer avec moi. Aujourd'hui à la technique, il y avait Laurent Baudouin. Les questions ont été préparées par Thierry Dupin, Bruno Chétrit et moi-même, aidés de Romain Forgeor pour la rigolisation de cette émission. Mathias Volant était à la réalisation. Jeanne Sarfati Kermarek est notre attaché de production. Le programmateur est Djoubaka. Et enfin, je remercie Joséphine Poncelin, qui est la flûtiste de tous nos jingles, qui vient de l'Orchestre National de Radio France. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qui veut gagner la flûte à bec ?